Chapitre 17. Des séparations et une rencontre. Le lendemain de l'attaque du Golem, Matt émergea d'un sommeil truffé de rêves plus pourris que des œufs vieux de 3 mois. Raide, des douleurs partout, il avait dormi dans un trou, sous un des chariots d'équipement d'Aludra. Sa chambre, il l'avait choisie au hasard, à coups de dés. Tant bien que mal, il sortit de sous le véhicule, s'étira et entendit craquer ses épaules. Par les maudites cendres, si être riche avait un avantage, c'était bien de ne pas devoir dormir dans des décharges publiques. Pourtant, Matt l'aurait juré, des légions de mendiants avaient dû passer une meilleure nuit que lui. Le chariot empestait le soufre. Un instant, Matt fut tenté de soulever la bâche pour voir ce qu'il contenait, mais ça ne l'aurait pas avancé à grand-chose. Aux diverses poudres d'Aludra, il ne comprenait rien. Mais tant que les dragons fonctionnaient, pourquoi aurait-il voulu savoir comment ils marchaient? Franchement, ça ne l'intéressait pas au point de s'attirer les foudres de l'illuminatrice. Par bonheur, Aludra n'était pas dans le coin. Sinon, elle l'aurait de nouveau tensé parce qu'il n'avait pas trouvé l'ombre d'un fondeur de cloche. Comme s'il était son fichu garçon de course. Un incompétent qui sabotait son boulot. De temps en temps, toutes les femmes se faisaient une spécialité de casser les pieds à un type. En se passant une main dans les cheveux pour en chasser les brins de paille, Matt traversa le camp. Alors qu'il s'apprêtait à aller voir Lopin pour qu'il lui fasse couler un bain, il se souvint que le pauvre était mort. Fichu sang. Que ce brave type repose en paix. Penser au défunt n'améliora pas l'humeur de Matt, tandis qu'il se dirigeait vers un endroit où on lui ferait don d'un petit déjeuner. Mais Julien lui tomba dessus. Son chapeau conique sur la tête, le pisteur de voleurs théarien portait une veste bleue nuit.
« Matt, dit-il, c'est vrai, tu autorises les Aes Sedai à retourner à la tour ?»«
Elles n'ont pas besoin de ma permission. »
En disant ces mots, Matt fit la grimace. Si on les rapportait aux sœurs, elles le feraient écorcher et se fabriqueraient des selles avec sa peau.
« Cela dit, je vais leur donner des chevaux. »«
Elles les ont déjà pris, » annonça Julien. En arguant que tu étais d'accord. »
Matt soupira. Son estomac grommelait, mais il devrait attendre. D'un pas décidé, il fila vers l'endroit où on attachait les chevaux. Pas question de laisser les sœurs filer avec ses meilleurs spécimens.
« Si je partais avec elles, » dit soudain Julien qui le suivait, « pour conduire Terra à Tarvalon. »«
Tu peux partir quand tu veux, mon gars. Je ne te retiendrai pas. »
Julien était un type bien, un peu rigide à l'occasion. Enfin, très rigide plutôt, et tout le temps. Comparé à lui, un fils de la lumière serait passé pour un joyeux drille. Bref, pas le genre de compagnon qu'on voulait lors d'une partie de dés. Toute la nuit, ce sacré gaillard aurait foudroyé les clients du regard, en marmonnant au sujet des crimes qu'ils avaient sans doute commis. Mais c'était un type fiable, et très utile en cas de coup dur.
« Je veux retourner à Théar,
dit-il.
« Mais les Séanchania en sont proches, et Terra... Eh bien, ça l'inquiète. Tarvalon ne lui sourit pas non plus, mais nous n'avons pas beaucoup de choix. Et les Aes Sedai m'ont promis du travail, si je viens avec elle. »
Donc, on se sépare,
fit Matt. Il s'arrêta et se tourna vers son compagnon.
Pour l'instant, dit Julien.
Il hésita, puis tendit la main au jeune flambeur, qui la serra. Ensuite, le pisteur de voleurs fila rassembler ses affaires et chercher sa compagne. Matt réfléchit quelques secondes, puis il changea son plan et prit la direction de la tente des cuisiniers. Julien retarderait le départ des Aes Sedai, très probablement, et il devait aller chercher quelque chose. Peu après, le ventre plein et un paquet sous le bras, il arriva devant les rangées de chevaux. Comme prévu, les sœurs avaient composé une colonne mal ficelée, avec certains de ses meilleurs équidés. Teslin et Jolene avaient aussi décidé de mobiliser des soldats et des chevaux de bas pour aller chercher leurs bagages puis les charger sur les montures en partance. Accablé, Matt soupira et avança pour inspecter les chevaux. Jolene était perchée sur Rayon de Lune, une jument théarienne qui avait appartenu à un bras rouge tombé lors du dernier combat contre les Séanchaniens. Plus réservée, Etessina avait choisi Feu Follet, un hongre gris, et elle regardait les deux femmes qui se tenaient sur son flanc droit. Bétamine à la peau noire et Seta à la blonde étaient d'anciennes souldames. Pendant que la colonne tentait de s'organiser, les deux Séanchaniennes s'efforçaient de rester à l'écart. Matt alla les rejoindre.
« Votre grandeur, »
dit Seta.
« C'est bien vrai? Vous leur permettez de s'en aller ?»«
J'aurais payé pour m'en débarrasser, »
grogna Matt, agacé par le titre dont l'affublaient ses femmes. Avait-elle besoin de jeter autour d'elle des mots ronflants, comme s'il s'était agi de sous en bois? Quoi qu'il en soit, elles avaient beaucoup changé depuis leur intégration dans le groupe, mais elles ne comprenaient toujours pas pourquoi Matt refusait d'utiliser les Aes Sedai comme des armes.
« Vous voulez partir avec elle ou rester avec moi ?»«
Nous partons !»
annonça Bethamine. Elle semblait décidée à profiter de l'enseignement de la tour.
« Oui !»
confirma Seta.
« Parfois je me dis qu'il vaudrait mieux nous laisser mourir plutôt que... Eh bien, ce que nous sommes et ce que nous représentons est un danger pour l'Empire. »
Matt acquiesça.
« Tuon est une soule d'âme !»
dit-il. Les deux femmes baissèrent les yeux.
« Partez avec les Aes Sedai !»
continua Matt.
« Je vous donnerai des chevaux, afin que vous n'ayez pas à compter sur les sœurs. Apprenez à canaliser, ça vous sera bien plus utile que de mourir. Un jour, vous réussirez peut-être à faire entrer la vérité sous le crâne de Tuon. Aidez-moi à arranger tout ça sans provoquer la fin de l'Empire. »
Soudain, plus assurées et confiantes, les deux femmes regardèrent le jeune flambeur.
« Oui, votre grandeur, »
dit Bethamine.
« Pour nous, c'est un objectif très sain. Merci, votre grandeur. »
Seta en avait les larmes aux yeux. Que croyait-elle qu'il venait de leur promettre? Prudent, il s'éclipsa avant qu'elles aient d'autres idées farfelues. Maudite femme! Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher d'être navré pour elles. Après avoir appris qu'elles étaient capables de canaliser, elles s'inquiétaient d'être un danger pour quiconque les entourait.
C'est ce que ressent aussi Rand, le pauvre idiot.
Comme toujours, les couleurs tourbillonnèrent lorsque Matt pensa à Rand. D'habitude, il évitait. Là, avant qu'il ait banni les couleurs, il aperçut Rand en train de se raser devant un miroir à cadre d'or, dans une somptueuse salle de bain. Après avoir donné des ordres au sujet des chevaux des Souldames, le jeune flambeur approcha des Aes Sedai. Tom déboula et mit aussitôt les pieds dans le plat.
« Par la lumière, Matt! On dirait que tu as dormi dans un buisson d'épineux !»
Matt passa une main dans ses cheveux hérissés, qui devaient valoir le détour.
« J'ai survécu à cette nuit et les Aes Sedai fichent le camp. De quoi avoir envie de danser la gigue. »
« Tu te doutais que ces deux-là partiraient aussi ?»
demanda Tom.
« Les Souldam ? Ouais. Ça ne me surprend pas. »
« Non, je parlais de ces deux-là. »
Matt tourna la tête et avisa Leilwin et Bail Domon, prêts au départ, leurs affaires enroulées fixées derrière leurs selles. Alors appelée Egeanine, Leilwin était jadis une noble dame séanchanienne, mais Tuon l'avait privée de son nom. Vêtue d'une robe grise d'équitation, elle arborait désormais des cheveux qui lui tombaient sur les oreilles. Mettant pied à terre, elle se dirigea vers Matt.
« Que la lumière me brûle !»
souffla le jeune flambeur à Tom.
« Si je suis également débarrassé d'elle, je vais finir par croire que la vie me sourit de nouveau. »
Domon suivit bien entendu Leilwin. Normal, puisqu'il était son Sojin. Encore que, maintenant qu'elle n'avait plus de titre, pouvait-il toujours l'être? Quoi qu'il en soit, ils étaient mariés désormais. Assez corpulent mais costaud, l'Ilianien était un type buvable, sauf quand il traînait avec Leilwin, à savoir en permanence.
« Coton, »
salua la Séanchanienne.
« Leilwin, »
répondit Matt.
« Tu t'en vas ?»«
Oui. »
Matt sourit. Encore un peu, et il la danserait, cette jig.
« J'ai toujours eu l'intention d'aller à la Tour Blanche, »
continua Leilwin.
C'était décidé le jour où j'ai quitté Eboudar. Puisque les Aes Sedai partent, je les accompagne. Quand l'occasion se présente, un navire a toujours intérêt à ne pas naviguer seul.
Navré de te voir partir,
mentit Matt en touchant le bord de son chapeau. Leilwin était aussi dur qu'un tronc de chêne centenaire. Le genre qui reste truffé de fragments d'acier parce que des idiots ont tenté de l'abattre à la hache. Sur le chemin de Tarvalon, si son cheval perdait un sabot, elle le hisserait sur son épaule et le porterait jusqu'à destination. Malgré tout ce qu'il avait fait pour lui sauver la peau, elle ne supportait pas Matt. Peut-être parce qu'il ne l'avait pas laissé prendre le commandement, ou parce qu'elle avait dû jouer le rôle de sa maîtresse. Une mise en scène qu'il n'avait pas adorée non plus. C'était à peu près comme tenir une épée par la lame et affirmer qu'on ne se coupait pas. Cela dit, il avait bien rigolé de la voir ne plus savoir où se mettre.
« Porte-toi bien, Matrim Coton, »
dit-elle.
« Je n'envie pas ta situation. En un certain sens, je crois que le vent qui te malmène est pire que les bourrasques qui m'ont frappé récemment. »
Elle salua Matt de la tête et se détourna. Domon posa une main sur le bras du jeune flambeur.
« Tu as tenu parole. Par ma grand-mère Kakoshim, c'était parfois limite, mais tu as fait ce que tu avais dit. Je te remercie.
Domon s'enfuit aussi. Matt fit un petit signe à Tom et alla rejoindre les Aes Sedai.
Elessina, Jolin, tout va comme vous voulez ?
Parfaitement, oui,
répondit Jolin.
Très bien. Vous avez assez de bêtes de bas ?
Ça ira, Maître Cotton,
assura Jolin. Avec une grimace, elle ajouta.
Merci de nous les avoir fournis.
Matt eut un grand sourire. Voir cette femme essayer de le traiter avec respect était désopilant. De toute évidence, elle avait pensé qu'Elaine l'accueillerait à bras ouverts, ainsi que ses compagnes. Mais elle n'avait même pas eu droit à une audience. Les lèvres pincées, Jolin dévisagea le jeune flambeur.
« J'aurais aimé te mater, Cotton. Qui sait, je reviendrai peut-être pour finir le travail. »
« Je t'attendrai avec impatience, »
mentit le jeune flambeur. Prenant le paquet glissé sous son bras, il le tendit à la sœur.
« Qu'est-ce que c'est ? »
demanda-t-elle sans prendre le présent. Matt secoua le paquet.
« Un cadeau d'adieu, »
dit-il.
« Chez moi, on ne laisse jamais partir un voyageur sans lui donner quelque chose pour la route. »
À contre-cœur, Jolin prit le paquet et regarda dedans. Découvrir une dizaine de beignets au sucre sembla la stupéfier.
« Merci, »
dit-elle, très raide.
« Vous aurez une escorte, »
annonça Matt.
« Ces hommes me ramèneront les chevaux quand vous serez à Tarvalon. »
Jolin fit mine de se plaindre, mais elle se ravisa. Qu'aurait-elle pu objecter ?«
C'est acceptable, Cotton, »
dit Tesslyn en approchant sur son ongre noir.
« Je leur ai ordonné de vous obéir, »
précisa Matt.
« Du coup, vous aurez des gens à tarabuster pendant qu'ils monteront vos tentes. Mais il y a une condition. »
Tesslyn arqua un sourcil.
« Je veux que vous transmettiez un message à la chère d'Amerline. Si c'est Gwen, ce ne sera pas difficile. Sinon, transmettez quand même. La Tour Blanche détient quelque chose qui m'appartient, et il est temps que je réclame mon bien. Je n'en ai pas envie, mais ce que je veux ou non ne compte pas, ces temps-ci. Donc, je viendrai, et je n'entends pas me faire ficher dehors. » Utilise très exactement cette expression.
À son crédit, Tesslyn ricana.
« Je le ferai. Mais je doute que les rumeurs soient fondées. » Et Laïda ne peut pas avoir abandonné son poste.
Tu risques d'être étonné.
Matt l'avait été aussi quand il avait découvert des femmes qui appelaient Gwen chère d'Amirline. Sans savoir ce qui était arrivé à la tour, il aurait parié que les Aes Sedai avaient tellement embobiné Gwen qu'elle ne s'en sortirait plus jamais. Parfois, il envisageait de faire un saut à Tarvalon pour secourir son ami d'enfance. Mais il avait d'autres priorités. Pour l'instant, Gwen devrait se débrouiller seule. Intelligente et compétente, elle y arriverait sans doute. Tom restait à l'écart, l'air songeur. Il n'était pas absolument sûr que Matt ait soufflé dans le corps de Valère. En tout cas, le jeune flambeur ne le lui avait jamais dit. Logique, puisqu'il essayait d'oublier cette histoire. Mais le trouvère avait dû deviner.
« Bien, je crois qu'il est l'heure pour vous de partir, »
dit Matt.
« Où est cette âle ?»«
Elle reste ici, »
répondit Tesslyn.
« Pour t'empêcher de faire trop de bourdes, » affirma-t-elle.
Les trois sœurs échangèrent des regards entendus. Toutes supposaient que Cétal était une servante de la tour en fuite, peut-être après avoir commis un forfait. En d'autres termes, Matt n'allait pas être débarrassé de toute la bande. Mais s'il avait choisi une femme digne de rester, il aurait opté pour maîtresse Annan. Tôt ou tard, elle voudrait sans doute essayer de retrouver son mari et sa famille, qui étaient partis des Boudards en bateau. Julin apparut, suivie par Terra. Cette petite bonne femme terrifiée avait-elle vraiment été la panarche du Tarabon ? Matt avait vu des souris moins timides. Des bras rouges amenèrent des chevaux au couple. En fin de compte, l'expédition coûterait à Matt une quarantaine d'équidés et une escouade de soldats. Mais ça valait largement le coup. D'autant plus qu'il récupérerait vite les canassons et les hommes, avec en sus des informations sur ce qui se passait vraiment à Tarvalon. Matt fit un petit signe à Vanin. Bizarrement, le gros voleur de chevaux n'était pas ravi de devoir aller à Tarvalon pour jouer les espions. Matt aurait cru qu'il se réjouirait, tellement il était fou des Aes Sedai. Eh bien, il serait encore plus malheureux en découvrant que Jolin était du voyage. Le pisteur de voleurs, ça pouvait se comprendre, Vanin le fuyait comme la peste. Monté sur un hongre gris, le voleur, officiellement, était un vétéran de la compagnie et un de ses meilleurs éclaireurs. Rien de douteux aux yeux des Aes Sedai, donc. De fait, il n'avait pas l'air bien dangereux, sauf pour les plats de pommes de terre bouillies. Sans doute était-ce pour ça qu'il excellait dans son art. Matt n'avait nul besoin qu'on vole des chevaux pour lui, mais les talents de Vanin ne se limitaient pas à ça. Le jeune flambeur se tourna de nouveau vers les Aes Sedai.
« Eh bien, je ne vais pas vous retarder davantage. »
Il s'écarta en évitant de regarder Jolin, dont les yeux de prédatrice lui rappelaient beaucoup trop Tailin. Teslin le salua d'un geste et Edessina, curieusement, le gratifia d'un signe de tête plein de respect. Julin fit au revoir à Tom et à Matt, qui eut aussi droit à un hochement de tête de Leilouine. Cette femme mangeait des pierres au petit-déjeuner et des clous au dîner, mais ce n'était pas un mauvais cheval. Matt pourrait peut-être parler à Tuon, histoire qu'elle la réintègre ou un truc dans ce genre.
« Ne sois pas idiot, » pensa-t-il en saluant Damon. « D'abord, tu devras convaincre Tuon de ne pas faire de toi un Dakovalé. »
Mari ou pas, il soupçonnait la fille des Neuf Lunes de vouloir le recycler en larbin. À cette seule idée, il suait comme un porc. Très vite, la colonne ne fut plus en vue, à part la poussière qu'elle soulevait. Tom approcha de Matt et souffla.
« Des beignets ?»«
Une tradition à Deux-Rivières. »«
Tu es sûr ? J'en ai jamais entendu parler. »
« Elle est très ancienne. »«
Je vois. Et tu leur as fait quoi à ces beignets ?»«
Un petit ajout de poudre de bleuet. Elle aura la bouche violette pendant une semaine, peut-être deux. »« Et n'a aucune crainte. Elle ne partagera les beignets avec personne, sauf ses champions peut-être. »« Parce qu'elle en raffole. »« Depuis notre arrivée à Kaemlyn, elle a dû dévorer l'équivalent de 7 ou 8 sacs. »«
Bien joué, » fit Tom en lissant sa moustache. « Mais un peu puéril. »
« J'essaie de revenir à mes racines, »
confia Matt.
« Retrouver ma jeunesse, si tu vois ce que je veux dire. »«
Tu as à peine 20 ans. »«
Oui, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs vies. »« Allez, viens avec moi. Maîtresse Ananrest, et ça me donne une idée. »«
Tu as besoin d'un bon coup de rasoir, Matrine Cotton !»
dit maîtresse Anan, les bras croisés et les sourcils froncés. Matt se passa une main sur les joues. Chaque matin, Lopin s'en occupait soigneusement, et si son maître refusait, il devenait grognon comme un chien sous la pluie. Sauf, bien sûr, depuis que Matt laissait pousser sa barbe pour passer inaperçu. Bon sang, ça démangeait autant que la gale. Cette halle, il l'avait trouvée près de la tente des cuisiniers, où elle supervisait la préparation du déjeuner. Accroupis, des bras rouges avalaient leur rata avec l'expression résignée de gars qui viennent de se faire rabrouer. Ici, cette halle ne servait à rien. De tout temps, les cuisiniers de la compagnie s'en étaient très bien sortis sans elle. Mais quelle femme aurait résisté au plaisir de tomber sur des types qui travaillaient à leur rythme et de leur casser les pieds? En outre, cette halle était une ancienne aubergiste, et, moins ordinaire, une ancienne Aes Sedai. Du coup, Matt la surprenait souvent à superviser des choses qui n'en avaient aucun besoin. Pas pour la première fois, il regretta que Tuon ne voyage plus avec lui. En règle générale, cette halle se rangeait du côté de la Séan Chanienne, mais justement, la soutenir et s'en occuper l'empêchait de sévir ailleurs. Pour la santé mentale des hommes, il n'y avait pas pire danger qu'une femme avec trop de temps à tuer. Cette halle était toujours vêtue à la mode des boudards. Matt ne s'en plaignait pas, essentiellement à cause du décolleté plongeant. Quand on avait les formes de cette femme, ce genre d'avantage n'était pas négligeable. Non qu'il le remarquât, cela dit. Des anneaux aux oreilles et les cheveux grisonnants, cette halle avait un port de reine. Bien sûr, le couteau de mariage qui pendait à son cou, niché entre ses seins, émettait une sorte d'avertissement. Pas pour Matt, puisqu'il ne s'intéressait plus à ces frivolités-là.
« La barbe, »
dit-il,
« c'est intentionnel. Je veux ta veste crasseuse !»
coupa maîtresse Anan. Elle fit signe à un soldat qui lui apportait des oignons pelés par ses soins. Sans regarder Matt, elle les mit docilement dans une casserole.
« Et tes cheveux ? Quelle horreur ! On dirait que tu sors d'une bagarre, et qu'il n'est même pas midi.
« Je vais très bien, »
répliqua Matt.
« Et je ferai ma toilette plus tard. Tu ne pars pas avec les Aes Sedai ?»
Une constatation, pas une question.
« Chaque pas en direction de Tarvalon m'éloignerait de l'endroit où je dois être. Il faut que j'envoie un message à mon mari. Quand on s'est séparés, je ne croyais pas me retrouver un jour en Andorre. Je pense entrer bientôt en contact avec une personne capable d'ouvrir des portails, »
dit Matt. Il plissa le front en voyant des soldats approcher avec le produit de leur chasse, un lot de cailles minuscules. Sur le visage des hommes, on lisait de la honte. Oubliant Matt, Cétal ordonna aux chasseurs de plumer les oiseaux.
« Lumière, il faut que je sorte de ce camp. Rien ne sera normal tant que les dingues ne seront pas tous partis. »« Ne me regarde pas comme ça, seigneur Matt !»
dit Cétal.
« Noram est allé en ville voir ce qu'il pourrait acheter. Quand le cuisinier en chef n'est pas là, ai-je remarqué ?» « Ses assistants ne se foulent pas trop. Personne ne m'a voir son déjeuner au moment où le soleil se couche. »« Ai-je dit quelque chose ?»
se défendit Matt.
« Cétal, on peut se parler en privé ?»
Maîtresse Anan hésita, puis elle suivit le jeune flambeur à l'écart des oreilles indiscrètes.
« Que se passe-t-il en réalité ?»
demanda Sétal.
« On dirait que tu as dormi dans un tas de foin. »«
Non, sous un chariot.
Dans ma tente, tout est rouge de sang.
Du coup, je n'ai guère envie d'y aller pour me changer. »
Sétal s'adoucit un peu.
« J'ai appris, pour Lopin. Je compatis.
Mais ce n'est pas une raison pour déambuler dans le camp avec des allures d'épouvantail. Il te faudra engager un autre serviteur. »
Matt secoua la tête.
« Je n'ai jamais voulu de celui-là pour commencer. À mon âge, on est assez grand pour se débrouiller seul. Sétal, j'ai une faveur à te demander. Pour un temps, je voudrais que tu t'occupes d'Olver. »«
Pourquoi ça ?»«
Cette créature peut revenir et tenter de le blesser. En plus, Tom et moi, nous allons bientôt partir. J'escompte venir entier, mais bon, dans le cas contraire... Enfin, je préférerais que le mioche ne soit pas abandonné à lui-même. »
De ce point de vue-là, il ne risque rien. Tous les hommes du camp l'ont adopté.
Certes, mais je n'aime pas leur façon de l'éduquer. Il a besoin d'exemples à suivre, ce petit.
Pour une raison inconnue, Sétal parut amusé par cette remarque.
J'ai déjà commencé à lui apprendre à lire. S'il le faut, je veillerai sur lui un moment.
Parfait !
S'écria Matt, soulagé. En principe, les femmes sautaient sur l'occasion de former un jeune garçon. Selon Matt, c'était l'objectif inavoué de le manipuler pour qu'il ne devienne jamais un homme.
« Je te donnerai de l'argent, et tu pourras prendre une chambre en ville. »
Sétal fit la moue.
« Toutes les auberges sont pleines à craquer. Tu ne le savais pas ?»«
Je te trouverai une chambre, »
promit Matt.
« Protège Olver, c'est tout ce que je demande. Quand le moment sera venu, et que nous aurons quelqu'un capable d'ouvrir un portail, je te ferai transférer en Iliane pour que tu retrouves ton mari. »
« Tu me proposes un marché ?
Dis-moi, les sœurs sont parties ?»«
Oui. »
« Et bon débarras. »
Sétal acquiesça mornement. Au fond, si elle avait tyrannisé des bras rouges, ce n'était peut-être pas parce qu'il traînait les pieds, mais parce qu'elle avait besoin de s'occuper.
« Je suis navré, »
dit Matt.
« Au sujet de ce qui t'est arrivé, quoi que ce soit.
Le passé est loin derrière moi, et je tiens à le garder à distance. Je n'aurais jamais dû demander à voir l'artefact que tu portes. Ces dernières semaines, j'ai perdu tout sens commun. »
Matt hocha la tête, puis il s'éloigna, partant en quête d'Olver. Après, il n'aurait plus d'excuses pour ne pas aller changer de veste. Et que la lumière le brûle, il se raserait. Les gens qui le traquaient pourraient le zigouiller si ça leur chantait. Tout valait mieux que ces démangeaisons, même une gorge ouverte. Elaine traversait en trombe le jardin d'hiver du Palais du Soleil. Cette oasis de verdure avait toujours été un des endroits favoris de sa mère. Aménagé sur le toit de l'aile est du complexe, il était entouré par un muret blanc ovale et défendu au fond par un haut mur incurvé. De là, on avait une vue imprenable sur la cité. Depuis sa jeunesse, Elaine préférait les jardins intérieurs, car on y était parfaitement tranquille. D'ailleurs, c'était ici qu'elle avait rencontré Rand. La jeune reine posa une main sur son ventre. Alors qu'elle se trouvait énorme, sa grossesse commençait à peine à se voir. Pourtant, elle avait dû renouveler entièrement sa garde-robe. Et dans les mois à venir, il faudrait probablement recommencer. Quel pensum ! Elaine continua à arpenter le jardin semé de vasques où poussaient des étoiles du matin blanches et des roses rouges. Pour l'époque, les fleurs étaient anormalement petites, et elles se fanaient déjà. Aux grandes dames des jardiniers, dont toutes les contre-mesures échouaient. Hors de la ville, l'herbe et les plantes se ratatinaient, et les champs cultivés jaunissaient à vue d'œil.
« Ça approche, » pensa Elaine.
Continuant son chemin, elle suivit une allée bordée par une pelouse très courte tondue à la perfection. Malgré leurs plaintes, les jardiniers ne servaient quand même pas à rien. Ici, l'herbe était toujours verte, et la brise charriait le parfum enivrant des roses. Même si leur robe était un peu tachée, ces fleurs-là, au moins, avaient fait l'effort d'éclore. Bordée de galets parfaitement alignés, un ruisseau coupait le jardin en deux. Ce cours d'eau, fallait-il préciser, coulait uniquement quand la reine y était. Pour ça, il fallait remplir la citerne. Elaine s'immobilisa sur un autre point d'observation idéal. Contrairement à une fille héritière, une reine ne pouvait pas s'isoler complètement du monde. S'arrêtant aussi, Birgit croisa les bras sur sa superbe veste rouge et dévisagea son Aes Sedai.
Quoi donc ? Tu es visible comme le nez au milieu de la figure. N'importe quel clampin muni d'un arc pourrait replonger le royaume dans une guerre de succession.
Elaine roula de gros yeux.
« Je suis en sécurité, Birgit. Il ne m'arrivera rien. »«
Oui, oui. Désolé de m'affoler en vain. » Les rejetés sont furieux contre toi, l'agent noir t'en veut à mort d'avoir capturé ses agents, et des dizaines de nobles te maudissent parce que tu leur as chippé le trône. Quel danger pourrait te menacer? Puisque c'est ainsi, je te laisse pour aller déjeuner.
Si ça te dit, je t'en prie, parce que je ne risque rien. Dans la vision de Mine, mes bébés naissent en bonne santé, et Mine ne se trompe jamais, très cher.
Elle a dit que tes bébés seraient en bonne santé, mais elle n'a rien précisé sur toi.
Et comment pourrait-il naître s'il m'arrive malheur?
Très cher. J'ai vu des gens ne plus jamais être les mêmes après avoir pris un mauvais coup sur la tête.
Certains survivent des années.
Mais ils ne peuvent plus parler, n'avalent que du bouillon et vont au pot comme les enfants. Avec un bras ou deux en moins, on peut quand même accoucher.
Et les gens qui t'entourent? Tu te moques de leur faire courir des risques?
J'ai de la peine pour Vanden et Sarita.
Avoua Elaine.
Et pour les hommes morts en me portant secours.
N'insinue pas que j'esquive mes responsabilités.
Mais une reine doit accepter que certains de ses sujets se sacrifient pour elle. C'est un lourd fardeau. Pourtant, c'est comme ça. Nous en avons parlé et reparlé, Birgit. Je ne pouvais pas prévoir que Chesmal et les autres débouleraient. Nous sommes tombés d'accord là-dessus.
Non,
lâcha Birgit entre ses dents serrées.
Nous avons décidé qu'en discuter à l'infini n'apportait rien. Mais j'insiste pour que tu gardes une idée à l'esprit. Beaucoup de choses peuvent encore tourner mal.
Ce ne sera pas le cas. Mes bébés sont en bonne santé et moi aussi. Jusqu'à leur naissance, en tout cas.
Birgit en soupira d'exaspération.
Petite gamine entêtée.
Elle se tut lorsqu'une des gardes féminines agita un bras pour attirer son attention. Deux femmes de la famille venaient de débouler sur le toit, en toute légitimité, puisque la reine les avait convoquées. Birgit se campa près d'un cerisier et croisa les bras. Les deux femmes portaient des robes très simples, bleues pour Alice et jaunes pour Soumeko. Plus petite que sa compagne, Alice était moins puissante dans le pouvoir. Du coup, elle avait vieilli plus vite que Soumeko. Toutes deux marchaient d'un pas plus serein. Ces derniers temps, aucune femme de la famille n'avait été portée disparue ou retrouvée morte dans un coin. La meurtrière, c'était Karéan, et elle avait tout organisé depuis le début. Une sœur noire cachée à la tour. Rien qu'à y penser, Elaine en avait la chair de poule.
« Votre Majesté, »
salua Alice en s'inclinant. La voix douce, elle avait une pointe d'accent du Tarabone.
« Votre Majesté, »
répéta Soumeko avant de s'incliner aussi. Ces deux femmes étaient pleines de révérences, plus vis-à-vis d'Elaine que des Aes Sedai désormais. Ninévé avait aidé la famille à se doter d'une colonne vertébrale contre la condescendance et le mépris des sœurs et de la Tour Blanche. Cela dit, face à Alice, par exemple, la jeune reine n'avait jamais eu l'impression qu'elle avait besoin de soutien. Pendant le siège, Elaine avait perdu une partie de sa bienveillance envers l'attitude des membres de la famille. Depuis peu, pourtant, elle s'interrogeait. Ces femmes avaient été très utiles pour elle. Avec leur toute nouvelle assurance, jusqu'où s'élèverait-elles? Elaine salua chacune de ses visiteuses, puis désigna des fauteuils installés à l'ombre du cerisier. Les trois femmes s'assirent, un lacet du ruisseau sur leur gauche. Elaine avait prévu de l'infusion à la menthe. Ses invités en prirent chacune une tasse, mais ajoutèrent une quantité importante de miel. Sans ça, les tisanes se révélaient imbuvables.
« Comment se porte la famille ?»
demanda Elaine. Les deux femmes se regardèrent. Et mince, Elaine se montrait trop formelle avec elle, et ça éveillait leur méfiance.
« Très bien, Majesté, »
répondit Alice.
« La peur semble abandonner la plupart d'entre nous. En tout cas, celles qui étaient assez avisées pour l'éprouver. Les autres, j'imagine, sont celles qui sont parties et qui ont trouvé la mort.
« Il est bon de ne plus devoir passer tellement de temps à guérir, »
fit remarquer Soumeko.
« Ça devenait épuisant. Tant de blessés, jour après jour. »
Elle eut une grimace rétrospective. Alice était taillée dans un tout autre bois. Impassible, elle sirotait son infusion. Pas calme et glacée comme une Aes Sedai, plutôt chaleureuse et attentive, mais réservée. Ces femmes avaient décidément un avantage qui manquait aux Aes Sedai. On les regardait avec moins de suspicion, parce qu'elles n'étaient pas liées directement à la Tour Blanche. Cela dit, elles y perdaient en autorité.
« Vous devinez que j'ai quelque chose à vous demander ?»
dit Elaine en cherchant le regard d'Alice.
« On serait capable de deviner ?»
demanda Soumeko, feignant la surprise. Elaine lui avait-elle accordé trop de crédit ? Alice hocha la tête, une réaction de solide matrone.
Vous nous avez déjà demandé beaucoup, Majesté, depuis que nous sommes ici. Mais pas plus que vous en aviez le droit, je dirais, jusque-là.
J'ai essayé de vous accueillir à Kemlin,
dit Elaine,
dès que j'ai eu compris que vous ne pourriez pas rentrer chez vous tant que les Sean Chanian occuperaient Eboudar.
C'est vrai,
convint Alice,
même si Eboudar n'est pas notre foyer. Au mieux, c'est un endroit où nous nous sommes échoués. Une nécessité plus qu'un chez-soi. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous s'absentaient régulièrement de la ville, par rotation, histoire de ne pas éveiller l'attention. Avez-vous réfléchi à votre nouveau port d'attache ?
Torvalon, dit Sumeko. Selon Nineveh Sedai, vous trouverez une place là-bas,
coupa Elaine.
Celles qui entendent devenir des sœurs, au moins. Et Gwen offrira une seconde chance à toute femme de la famille désireuse d'obtenir le châle. Mais pour les autres ?
Nous en avons parlé,
dit Alise, les yeux plissés.
Nous nous associerons à la tour pour créer un endroit où les Aes Sedai pourront prendre leur retraite.
Pas à Torvalon, je suppose.
Quel intérêt de créer un tel endroit si proche de la Tour Blanche ? Quand on se retire, on se retire.
Nous pensons rester ici,
révéla Alise.
C'est ce que j'aurais dit, mais les intuitions n'ont aucun poids. À la place, j'entends vous faire des promesses. Si vous restez à Kemlin, pourquoi ne pourrais-je pas vous garantir la protection de la couronne ?
À quel prix ?
Demanda Alise. Sumeko semblait franchement désorienté.
Rien de prohibitif,
assura Elaine.
En fait, ça ne vous coûtera rien, à part une faveur de ci de là, comme par le passé.
Dans le silence qui suivit, les bruits de la cité arrivèrent aux oreilles des trois femmes. Taquinées par le vent, les branches du cerisier laissèrent tomber quelques feuilles aux pieds d'Elaine et de ses invités.
« Ça paraît dangereux, »
dit Alise, après avoir bu une gorgée d'infusion.
« Vous ne suggérez pas, j'imagine, que nous fondions une tour rivale de celle de Torvalon, ici, à Kemlin. »
« Rien de ce genre, »
assura Elaine.
« N'oubliez pas que je suis une Aes Sedai. Quant à Egwene, elle a parlé de laisser la famille continuer comme avant, à condition qu'elle reconnaisse son autorité.
« Je ne suis pas certaine que nous voulions continuer comme avant, »
dit Alise.
« La Tour Blanche nous laissait mener nos vies, mais avec la hantise d'être découverte. Depuis le début, c'est une façon de nous instrumentaliser. Plus nous y songeons et moins ça nous amuse. »
« Parle pour toi, Alise !»
s'écria Sumeko.
« J'ai l'intention de passer l'épreuve et de réintégrer la tour. En optant pour l'âge à jaune, prends-en note dès aujourd'hui. »«
Peut-être, mais moi, les sœurs ne mourront pas. De toute façon, je suis trop faible dans le pouvoir. Sachez que je n'accepterai pas de demi-mesure, comme être obligé de me prosterner et d'obéir chaque fois qu'une sœur voudra que je lave ses vêtements. Et Gwen Sedai a parlé de laisser continuer la famille, mais si ça se confirme, pourrons-nous canaliser le pouvoir au vu de tous ?»«
Je suppose, oui, »
répondit Elaine.
« Tout ça, c'est essentiellement l'idée d'Egwene. Elle ne vous confierait pas ses sœurs retraitées pour leur interdire de canaliser. Le temps où des femmes s'unissaient à la source en secret hors de la tour est révolu. Les régentes des vents et les matriarches ont amplement démontré que c'était du passé.
« C'est possible, »
concéda Alise.
« Mais offrir nos services à la tour d'Andorre, c'est une toute autre affaire. »
Nous nous assurons de ne pas entrer en conflit avec les intérêts de la Tour Blanche,
dit Elaine.
Et vous accepterez l'autorité de la chair d'Amerline. Donc où est le problème? Les Aes Sedai rendent des services à tous les monarques du continent.
Ta proposition est tentante,
dit Alise.
Mais quelles sont ces faveurs demandées par la couronne d'Andorre?
De vous, je veux seulement deux choses, les portails et la guérison. Vous n'aurez pas à vous mêler de nos conflits ni de nos intrigues politiques. Il vous suffira de guérir mes sujets quand ils seront malades et de me fournir quotidiennement des femmes capables d'ouvrir un portail, quand je le demanderai, bien sûr.
Ça ressemble sacrément à la création d'une tour blanche à Kemlin,
dit Alise. Sumeko s'était rembruni.
Non, non! La tour blanche est synonyme d'autorité et de politique. Vous seriez une entité totalement différente. Imaginez un lieu à Kemlin où tout le monde viendrait se faire soigner gratuitement. Visualisez une ville débarrassée de la maladie. Et un monde où la nourriture ira en un clin d'œil à ceux qui en ont besoin.
Sans parler d'une reine qui pourra envoyer ses troupes n'importe où en un éclair,
fit Alise.
Des soldats sur le champ de bataille un jour et bénéficiant d'une guérison le lendemain. Une reine également qui engrangera les bénéfices en faisant payer le droit de passage pour ses portails.
Sur ces mots, Alise reprit un peu d'infusion.
C'est vrai,
convint Elaine. Encore qu'elle ne voyait pas comment convaincre Egwene de la laisser mettre en application cette partie du programme.
« Nous demanderons la moitié, »
dit Alise.
« 50% de ce que rapporteront les portails et la guérison. »«
La guérison sera gratuite, »
insista Elaine.
« Pour tout le monde, sans discrimination. »« La sélection se fera en fonction de la gravité, pas du statut social. »«
Sur ce point, je peux être d'accord, »
dit Alise. Sumeko la foudroya du regard.
Tu ne peux pas parler en notre nom à toutes. Ne m'as-tu pas jeté à la face que le cercle du tricot était dissous, puisque nous avions quitté Eboudar? De plus, nos lois...
Je parle en mon nom seul, Sumeko, et en celui des femmes qui se joindront à moi. La famille telle que nous la connaissions n'existe plus. Notre exigence première, c'était le secret, et ça n'a plus de sens aujourd'hui.
Sumeko n'insista pas.
Mon ami,
dit Alise, en lui posant une main sur le bras.
Tu aspires à te joindre aux Aes Sedai. Pas moi, parce que je désire autre chose, et je ne serai pas seul dans ce cas.
Mais te lier ainsi à la couronne d'Andorre,
nous serons liés à la Tour Blanche, mais nous vivrons à Kemlin. Les deux ont des avantages. Pour tenir debout seul, nous ne sommes pas assez fortes. Andorre est un endroit qui en vaut bien d'autres. Mieux que ça, c'est un royaume que la Tour Blanche et le dragon réincarné regardent avec bienveillance. Bref, nous y sommes et nous y resterons. Vous pourrez vous réorganiser,
dit Elaine, de plus en plus intéressée.
Un règlement, ça s'amende. Par exemple, en autorisant vos membres à se marier. Ce serait judicieux, je crois.
Pourquoi ?
Demanda Alise.
Parce que ça leur créerait des attaches, les rendant ainsi moins menaçantes aux yeux de la tour. Et ça vous distinguerait, en un sens. Très peu de sœurs prennent un époux. Du coup, rejoindre la famille serait sans doute plus... attractif.
Alise acquiesça pensivement. Sumeko, elle, semblait revenir à de meilleurs sentiments. Cela dit, Elaine était navrée de l'admettre, son départ pour Tarvalon ne lui briserait pas le cœur. La jeune reine entendait pousser ses femmes à choisir leur dirigeante d'une façon différente. Travailler avec quelqu'un comme Alise serait bien plus agréable qu'être en face d'une doyenne en poste à cause de sa date de naissance.
« Je m'inquiète au sujet de la chair d'Amirline, »
avoua Alise.
« Les services des Aes Sedai sont gratuits. Que diront-elles si nous nous faisons payer ?»« Je parlerai à Egwene. »
répéta Elaine.
Je suis sûr de la convaincre que la famille et Andorre ne sont pas une menace pour elle.
En tout cas, la jeune reine espérait y arriver. Pour Andorre, la famille représentait une chance incroyable, avoir un accès permanent et peu coûteux au portail. Ainsi, le royaume serait presque sur un pied d'égalité avec les Séanchaniens. Elaine s'entretint encore un peu avec les deux femmes, histoire de leur prouver qu'elle comptait pour elle. Quand elles se furent retirées, la jeune femme s'attarda dans le jardin. Devant une vasque de clématite bleue, elle passa un long moment à contempler les feuilles doucement agitées par la brise, en s'efforçant, cependant, de ne pas regarder la vasque d'à côté, parfaitement vide. Là, les clématites n'étaient pas bleues, mais rouges, et un fluide carmin coulait de leurs tiges quand on les coupait. Bouleversés, les jardiniers les avaient arrachées. Tôt ou tard, les Séanchaniens s'en prendraient à Andorre. À ce moment-là, ses armées probablement affaiblies par les batailles, Rand ne serait peut-être plus de ce monde. Cette idée serrait le cœur d'Elaine, mais elle devait regarder la vérité en face. Pour les Séanchaniens, Andorre serait une prise de choix. Les mines et les terres fertiles les tenteraient, ainsi que la proximité de Tarvalon. Et de toute manière, ces gens qui se proclamaient les héritiers d'Arthur Eldefaucon ne seraient pas satisfaits avant d'avoir récupéré la totalité de son empire. Elaine se retourna pour contempler son royaume. Oui, son royaume. Peuplée de sujets qui se fiaient à elle pour être défendue et protégée. Parmi ses soutiens, lors de la conquête du trône, beaucoup nourrissaient des doutes sur elle. Mais elle leur avait paru la meilleure candidate. Aujourd'hui, elle devait leur prouver qu'ils ne s'étaient pas trompés. S'assurer la coopération de la famille serait un premier pas. Très bientôt, les Séanchaniens aussi sauraient ouvrir des portails. Pour apprendre, il leur suffirait de capturer une femme qui en était capable. Presque aussitôt, toutes les damanes assez puissantes dans le pouvoir maîtriseraient ce tissage. Si Elaine n'en disposait pas, ce serait un gros handicap. Hélas, elle manquerait toujours de personnes prêtes à utiliser le pouvoir sur un champ de bataille. Ça, elle ne le demanderait pas à la famille. Ses femmes refuseraient, et Egwene en ferait toute une histoire. D'ailleurs, Elaine elle-même était réticente. Forcer une femme à tuer avec la source la rabaisserait au niveau des Séanchaniens. Malheureusement, la jeune reine connaissait trop bien les dégâts que pouvaient faire des femmes avec le pouvoir de l'unique. Pendant que Birgit attaquait les sœurs noires qui l'avaient enlevée, ici, à Kemlin, elle était ligotée dans un chariot. Mais après, elle avait vu les dégâts. Des centaines de morts, encore plus de blessés. Sans parler des cadavres carbonisés encore fumants. Il lui fallait un avantage contre les Séanchaniens, pour compenser leur maudite Daman. La seule option, apparemment, c'était la tour noire, qui se dressait sur le territoire andorien. À ces gens, Elaine avait précisé qu'elle les considérait comme des membres de sa nation. Mais jusque-là, elle s'était contentée de leur envoyer quelques équipes chargées de vagues inspections. Qu'arriverait-il aux Achamans si Rand mourait? Fallait-il prendre le risque de les annexer? Ou attendre que quelqu'un d'autre le fasse?